L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle émission Afrique dans tous ses états. Je remercie Nathalie Bouly pour l'émission qui nous précède tout juste. Merci, merci. On te retrouve demain, Nathalie, pour le même créneau horaire. Aujourd'hui, Afrique dans tous ses états, et c'est toujours avec Marie-Claude Siakezak.
Et c'est toujours avec autant de plaisir que je retrouve Guylaine, d'autant que nous embarquons chaque fois pour le continent africain.
Donc c'est ça.
C'est pas une punition.
Allez, on prend l'avion et hop, on va atterrir. Où ça aujourd'hui, Marie-Claude?
Alors, aujourd'hui, on va atterrir au Gabon. Voilà, on change un petit peu, en sachant que, voilà, avec notre invité qui va se présenter, je lui expliquais que j'ai toute une histoire aussi avec le Gabon.
Quelles histoires m'avez-vous passées?
Donc, vous voyez, il n'y a pas de hasard, comme on dit.
C'est ça. Huguette Ayegone Abessolo, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints. Alors, vous avez été comme ça happé par Marie-Claude?
Oui. Je dois dire que j'ai connu Huguette, je fais un petit parce qu'elle ne se présentera pas comme ça, mais je l'ai rencontrée, c'était pendant le sommet Afrique-France.
Oui.
Elle participait donc à un exposé sur la vieillesse en Afrique. C'est un projet, et d'ailleurs, c'est un sujet qui, moi aussi, m'interpelle, puisque... les Africains sont en train de perdre, comme nous avons perdu, leurs repères traditionnels au village, etc., dans les villes et tout ça. Et qu'en plus, malgré tout, même si c'est un continent qui reste fragile et jeune, il y a quand même des personnes âgées et vieillit de plus en plus. Mais je pense que... Et donc, quand j'ai entendu ce que va nous expliquera après nous avoir parlé un peu d'elle, j'espère quand même.
Ouais, parce qu'on arrive, on a besoin de vous connaître.
On n'arrive pas du Gabon comme ça par hasard à Montpellier.
Enfin, et on n'arrive pas ici sans présenter. Hein. Ça, c'est pas africain, ça.
Voilà. Et quand je l'ai entendu parler, expliquer, faire son exposé, et puis qu'elle a parlé de ses projets, alors là, je me suis dit, il faut absolument que...
Un détour par FM+.
Voilà, qu'elle passe par chez nous.
Allez.
Absolument.
Ça, c'est gentil, ça. Donc, alors, Huguette, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous?
Alors, comme vous l'avez dit, Huguette Ayegone Abessolo, je suis issue d'une famille de 9 enfants. Et je suis 7e sur 9 enfants.
Le chiffre parfait.
Voilà.
Le chiffre 7.
Et il y aura 15 ans que je suis arrivée en France. J'avais ma sœur et mon frère qui vivaient ici. Et moi, je venais pour faire un perfectionnement secrétariat parce que j'étais secrétaire de santé au Gabon. Et c'est comme ça que je suis restée en France.
Avec bonheur?
Avec bonheur, parce qu'il y avait ma sœur et mon frère déjà.
Ouais.
Donc c'était
des attaches familiales.
Des attaches familiales. Et puis, c'était déjà... tout était déjà... comment je vais dire? Je tombais déjà dans un milieu connu, conquis, où je pouvais... et ma sœur était là, elle faisait un doctorat en sciences politiques. Donc, elle m'a vraiment entourée, elle m'a montré ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire. Donc, je n'ai pas eu trop de difficultés à m'intégrer à la nouvelle vie que j'ai ici maintenant.
Ouais.
Mais quand même, pour être aussi montpelliéraine de cœur, même si je suis très africaine et très burkinabée, il faut quand même dire, Huguette, que Montpellier est une ville de tradition d'accueil de l'étranger.
Oui,
hein, et que justement, pour avoir des témoignages d'amis, pas que d'amis africains, d'amis étrangers, voilà, c'est quand même... Mais c'est sûr aussi que quand on est jeune et qu'on débarque comme ça, c'est encore mieux si on a déjà un petit nid qui vous accueille.
Fait.
Voilà.
Ouais,
donc, qui peut-être explique que 15 ans après, vous êtes toujours là.
Oui, tout à fait.
Donc, il y a 15 ans, vous arrivez comme déjà formée comme secrétaire de santé, ou vous aviez besoin d'une formation complémentaire?
J'avais besoin d'une formation complémentaire. Et je pense qu'en fait, lorsque je fais un travail, au bout d'un moment, quand j'en ai fait le tour, j'ai besoin de plus. Et ça va se voir dans mon parcours avec la branche que j'ai prise après.
Après.
Voilà, donc quand j'ai fait le tour, j'ai besoin de continuer, mais d'avoir de nouvelles billes pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer à faire ce que j'aime, parce que j'ai aimé être secrétaire de santé et j'aime, là, avec les personnes âgées, j'aime beaucoup travailler avec les personnes âgées.
Donc, quelques années après, tout de suite, vous engagez dans votre spécialité autour des personnes âgées ou est-ce que c'est venu après, encore après?
En fait, c'est venu après parce que j'étais, donc quand je suis arrivée, je suis allée m'installer à l'ODEV un an après et j'étais bénévole au Secours catholique. Et donc, on allait rendre visite à des personnes âgées chez elles. Et un jour, lors d'une visite, on est allé chez une dame. Et elle ne nous a pas reconnus, elle nous a menacé d'appeler la police, elle nous a insultés. Et après, la responsable nous avait dit, on repart. Et quand on est reparti, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais c'est quand qu'on repart chez la dame? Parce que c'était quand même bizarre ce qui s'est passé, c'est quelqu'un chez qui on va toutes les semaines. Ne pas nous reconnaître, c'était quelque chose de bizarre. Et puis, elle me dit qu'on ne va plus y aller puisqu'elle a menacé d'appeler la police. Mmh. Et au bout de quelques temps, je suis quand même allée me renseigner parce que par rapport à ma culture, tout le monde sait ce que tout le monde fait. C'est pas possible qu'il y ait... que quelqu'un... qu'on n'ait pas une réponse par rapport au comportement d'une personne. Mmh. Et quand je suis allée voir où était la dame, on nous a dit qu'elle avait disparu du jour au lendemain. Personne ne savait où elle était partie. Et là, j'ai commencé à m'interroger en me disant, il y a quand même quelque chose. On ne peut pas, du jour au lendemain...
Disparaître,
mais surtout ne pas reconnaître les personnes qu'on voit toutes les semaines.
Mmh. Et vous n'avez pas mis ça sur le compte d'une sénilité?
Non, il y a 15 ans, on ne parlait pas de sénilité comme maintenant. C'était je pense que nous tous, on a été surpris de ça. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais chercher. Il faut que je comprenne.
Oui.
Parce que c'était...
Pour vous, c'était inacceptable de laisser comme ça cette personne. Sous prétexte qu'elle vous avait insulté ou pas reconnu, etc. C'était pas suffisant pour vous.
C'était pas suffisant. Ouais. C'était par rapport à ma culture, vraiment, c'était pas suffisant. Et c'était pas... comment je peux dire, entendable de que quelqu'un ait un comportement où il n'y a aucune logique qu'on puisse mettre sur ses actes. Il fallait que je comprenne. Et c'est comme ça que je me suis inscrite à ma première formation d'accompagnement personnes âgées, personnes handicapées.
Alors, juste une petite parenthèse. Voilà.
Plus qu'une parenthèse, ouvrez-la.
Huguette parle donc de la culture, effectivement, et de la culture, et là je reconnais d'autres cultures, d'autres pays africains, c'est que, effectivement, ce qui prime en Afrique, c'est le groupe.
Oui.
Contrairement à ce que nous voyons, l'évolution que nous avons eue, parce que nous aussi, on vient de la terre et du village, et puis voilà, et c'est vrai que c'est le groupe. Et ce qu'elle explique, c'est vrai qu'à un moment, on ne peut pas, comme ça, et c'est même un peu choquant d'ailleurs, quand elle le raconte, mais on ne peut pas tout à coup abandonner sous prétexte qu'une personne a eu un comportement inadapté ou complètement étrange, etc. Et là, on retrouve, et je pense que souvent, pour le voir autour de nous, autour de moi, que souvent les personnes, notamment la culture africaine, les personnes d'origine africaine, sont souvent très, très prisées, très aimées, très appréciées pour s'occuper des autres, de l'autre. Le corps aussi, on a parlé une fois, Guylaine, toutes les deux, du rapport au corps, voilà, de l'enfant africain, etc. Et justement, on retrouve cette qualité-là. Donc, je trouvais que c'était important, voilà, que l'expérience de Huguette qui fait, justement, qui l'a fait avancer. Parce qu'elle, comme elle dit, au bout d'un moment, il faut qu'elle comprenne, et puis il faut qu'elle aille plus loin pour comprendre encore autre chose.
Ouais.
Donc, voilà, merci Huguette de ce témoignage-là.
Merci.
Donc, finalement, c'est cet incident survenu au Secours catholique qui vous fait, vous, aller voir... plus en profondeur les raisons de cela, quoi.
Oui, tout à fait. Et donc, du coup, j'ai commencé à... parce qu'en plus, en parallèle, j'avais fini mon perfectionnement en secrétariat et je cherchais du travail et puis je n'en trouvais pas. Et puis, je me suis dit, tant qu'à faire, je finirai peut-être femme de ménage, mais si je peux le faire, chez une personne qui a réellement besoin d'aide, je vais plutôt me pencher du côté des personnes âgées. Mmh. Au moins, je joindrai l'utile à l'agréable.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec les personnes âgées.
Et vous avez passé un diplôme de coordinatrice de parcours de vie de personnes en situation de fragilité ?
Alors, j'ai commencé par, justement, par faire un titre, le titre d'accompagnant, agent d'accompagnement pour les personnes âgées et les personnes dépendantes. Et donc, j'ai commencé à travailler dans une association d'aide et de maintien à domicile comme agent à domicile. Et au bout d'un moment, au bout de quelques années, je me suis rendu compte, étant donné que j'avais pas de... C'était un titre qui n'était pas vraiment reconnu. Donc mes missions...
Toujours pas d'ailleurs, je crois bien.
Toujours pas.
Mmh. Il y a des militances, des défilés réguliers
oui.
pour ces professions.
Oui. Et donc je me suis dit, maintenant je m'occupe... Je suis obligée, quand on va sur le terrain, quand on travaille à domicile, en fait... Entre la fiche de mission qu'on a et la réalité qu'il y a sur le terrain, ça, c'est deux choses totalement parallèles. Donc, quand on arrive, on se dit, on va pour l'entretien d'un logement. Quand on arrive, on se retrouve à donner à manger à la personne. Et je me suis dit, je n'ai pas les connaissances, les compétences pour le faire. Je suis obligée de le faire. Il faut que j'arrive à me former pour être capable de le faire sans problème, sans mettre la personne en danger. Parce que quand j'arrive sur le terrain, je suis obligée de le faire. Je ne peux pas laisser la personne.
Mais oui, c'est ça. Alors que vous êtes payée, on va dire, pour faire l'entretien de la maison et non pas pour donner à manger.
Voilà.
Ce qui est un autre statut.
Ouais. Mais manque de personnel comme cette branche est vraiment...
Ou alors l'occasion pour l'employeur de vous payer un peu moins.
Il y a de ça, mais je ne sais pas si ça vient de l'employeur, mais...
En tout cas, peut-être des conventions, enfin bref, il y a un réel problème.
Il y a un réel problème.
Ouais.
Et du coup, j'ai fait, ayant déjà une formation de base, j'ai fait une VAE, d'auxiliaire de vie sociale. Donc, j'ai eu cette VAE et au bout de quelques années, pareil, j'avais... En plus des personnes âgées, des personnes handicapées. La prise en charge n'étant pas la même, je peux faire les lever, les coucher, mais la prise en charge en elle-même ne me suffisait plus, ne me convenait plus.
Prise en charge, ça veut dire
L'accompagnement de la personne.
Ah oui, d'accord.
Comment on accompagne ? Parce que les personnes âgées, elles sont âgées, elles ont un vécu, elles ont une vie. Les personnes handicapées, on en avait qui avaient 20 ans, quand elles sont majeures. Mais c'est une personne handicapée.
C'est ça.
Donc, accompagner une personne âgée, elle a tout un vécu qui fait que souvent, elle nous transmet des choses. Mmh. On va les aider dans ce qu'elles ne peuvent plus faire. Une personne handicapée, on doit l'accompagner le plus souvent. Par contre, c'est pas la même chose. Du coup, j'ai eu l'impression que j'avais pas les billes, toutes les billes.
Allez, encore une fois, hop.
Encore une fois, une formation avec Initiative.
Ouais.
J'ai fait la formation de monitrice éducatrice. Et donc, j'ai continué le terrain, monitrice éducatrice. Et ça m'a même permis de travailler en parallèle dans un centre de réinsertion sociale. Donc, je peux prendre correctement en charge une personne âgée, une personne handicapée et beaucoup, il y a énormément de personnes avec des maladies psychiatriques qu'on doit aller aider. Et le problème, c'est que la prise en charge n'est quand même pas pareille dans les trois cas.
Allez, à nouveau, pas.
Bon, déjà, avec mon nutrice éducatrice,
ça allait
parce que j'arrivais
à gérer tout ça. Ouais.
Et après, il y a... Deux ans et demi, l'association dans laquelle je travaille en partenariat avec l'ITEV, c'est l'Institut Transdisciplinaire d'études du vieillissement, a proposé une nouvelle formation, la formation de coordinatrice de parcours de vie, de personnes en situation de fragilité.
On y arrive.
Voilà. Et ça a été une aubaine parce que c'est... les personnes qui avaient été choisies, c'est des personnes qui sont déjà sur le terrain, qui ont un regard de terrain, parce que le problème qu'il y a aussi dans les prises en charge des personnes âgées, lorsqu'on va chez une personne âgée, en général, elle va vous dire « j'ai besoin du ménage ». Et là, on l'a vu, ça a été très flagrant pendant la COVID, parce que pendant la COVID, ayant été en sous-effectif, tout ce qui a été privilégié, ce sont les actes essentiels de la vie, lever, coucher, repas. Et on s'est rendu compte, et là on se rend compte, là tout le monde se rend compte, parce que nous, du terrain, on le voit, que le fait qu'on aille chez les personnes, soi-disant pour faire du ménage, c'est pas que du ménage, c'est le lien social de la personne, c'est le lien qui fait en sorte que la personne puisse sortir, parce que quand on a fini de faire le ménage, on peut parler, on peut être les seules personnes avec lesquelles elle va parler dans la journée. Et là, on s'est vraiment rendu compte du travail à domicile.
Ouais, ce n'est pas que le ménage.
Ce n'est pas que du ménage. Voilà. Et nous, les coordinatrices, lorsqu'on va chez une personne, parce qu'il y a des responsables de secteur, les responsables de secteur sont des administratifs. Quand elles vont sur le terrain, elles vont demander les besoins, elles vont voir, elles vont mettre... Il y aura un cadre bien logique, bien défini pour ce qu'on va faire. Or, nous, les coordinatrices, quand on part, connaissant la personne âgée, on sait que si vous lui dites est-ce que ça va, si elle sait que ça peut enclencher le fait d'aller à l'hôpital, elle vous dira ça va. Nous, on le sait. Par exemple, quand on voit une personne marcher, s'il y a des marches dans la maison, on sait que c'est dangereux pour la personne. Parce que on vit ça, on est sur le terrain. Et donc, nous, notre regard, lorsqu'on va faire une visite, parce que nous, on fait des visites de réévaluation, on voit tout ce qui entoure la personne. Donc, sa santé, en fonction des besoins, si elle arrive encore à faire sa toilette toute seule, si elle n'y arrive pas, on va la diriger, elle va être conseillée pour avoir une infirmière ou une aide-soignante qui vienne l'aider. Si elle n'arrive plus à marcher, on va l'orienter pour qu'elle ait un kiné. Si elle peut aller chez le kiné, en général, c'est le mieux. On va voir avec les interventions de l'aide à domicile pour qu'elles puissent aller toutes les deux chez le kiné. Sinon, on va voir pour un kiné à domicile.
Donc, gérer finalement son planning.
Sont en fait les réels besoins.
Les réels besoins, oui.
Et après, on va regarder le domicile. Tout ce qui peut faire en sorte... il faut qu'on évite les accidents qu'on peut éviter. Donc, si la personne n'arrive plus à se lever, on va lui conseiller de voir le médecin, par exemple, parce que le lit médicalisé avec la potence va permettre qu'elle continue toute seule à se lever, à se mouvoir.
Ouais. Vous cherchez l'autonomie.
On cherche l'autonomie. Mmh.
Et de la prévention, un petit peu, la prévention, d'un glissement un peu plus grave chez une personne qui déjà est en difficulté ou en fragilité.
Voilà. Mmh. Et pour celles qui ne le sont pas encore, il faut qu'on prévoie, qu'on voit, en fonction de la situation, tout ce qui peut faire en sorte que la personne reste le plus longtemps chez elle.
Guette Ayingon Abessolo, après la coordination de parcours de vie de personnes en situation de fragilité, qu'est-ce qu'il y a après ça pour vous?
Alors, après ça,
je vois qu'il y a déjà quelque chose.
Après ça, j'ai refait avec Initiative.
C'est déjà fait, il y a déjà eu.
C'est déjà fait, je l'ai eu. Je suis chef de projet en économie sociale et solidaire.
Félicitations.
Merci.
Alors, ça consiste en quoi?
À monter des projets. Et
donc, l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment une économie participative des employeurs, des employés à la gestion de l'entreprise?
Oui. En fait, c'est la nouvelle économie vers laquelle on veut tendre. Mmh. Parce que l'économie... en elle-même, si elle n'est pas sociale, aujourd'hui, il y a énormément de personnes en marge de la société. Or, il faut qu'on continue à avancer. Alors, moi,
avec tout le monde.
Avec tout le monde. Donc, l'économie sociale et solidaire va permettre qu'on fasse vivre les entreprises, qu'on va vivre les sociétés, mais en ayant un regard sur l'humain, sur la personne. On ne doit pas oublier la personne qui va aider à construire cette économie.
C'est en cela qu'on a rajouté à économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'on a rajouté vraiment deux axes essentiels pour faire oublier un petit peu qu'il n'y a pas que l'économie qui prime. Et là encore, on retrouve quand même le regard africain. C'est-à-dire que, quelque part, effectivement, ici, on paye des gens, on paye du monde, on forme des gens, etc., pour faire ce travail-là. Mais là-bas, la personne âgée, ça lui est dû. Ça lui est dû. De toute façon, c'est un dû. Donc, ce n'est pas du tout considéré comme un travail en soi. C'est une obligation, mais qui n'est pas, qui n'est pas du tout vécue, qui est vécue comme quelque chose de naturel, de vital. On est dans la vie. Voilà. Et c'est vrai qu'on le retrouve un peu dans le discours. Merci, Huguette.
Merci. Voilà. Alors, finalement, c'est avec votre personnalité, comme dit Marie-Claude, que vous vous êtes accaparé tous ces... Tous ces projets, toute cette avancée en fait pour améliorer ou pour faire agrandir tout ce que vous connaissez sur la santé.
Oui, notamment sur la personne âgée.
Sur la personne âgée.
Parce que pour la personne âgée ou la personne handicapée, il faut un accompagnement adapté.
Alors, Marie-Claude a bien relevé que c'était aussi par votre culture africaine. Est-ce que ce que vous vivez là, vous allez pouvoir le transposer, notamment au Gabon? Ou est-ce que c'est franchement pas utile, étant donné que les personnes âgées sont prises en charge d'une façon naturelle par les familles?
C'est la réponse que va nous faire Huguette, qui a fait que moi, alors j'ai flashé et j'ai dit absolument, il faut que cette personne-là elle vienne nous parler.
Voilà.
Est-ce qu'elle va répondre?
Mais, alors, vous allez distiller l'information parce qu'on se voit la semaine prochaine. Donc, tranquillement, vous mettez en appétit. Il faudra qu'on laisse un peu de temps pour le choix musical que vous avez fait, Marie-Claude.
Alors, c'est tout à l'heure. On l'a fait avec Huguette, toutes les deux. Nous sommes des fans, entre autres, de maître Pierre Akendengue, qui a été ministre de la Culture aussi dans son pays. Ouais. Donc, et Huguette va nous annoncer le titre. Et ce titre, il enchante tous nos amis africains, puisqu'il englobe toute l'Afrique. Huguette, le titre, c'est... Africa.
Africa. Oui. Et alors, vous avez un peu le temps. Donc, ça c'est fait. On a annoncé le morceau pour la fin de l'émission. On a encore quelques minutes.
On a quelques minutes, je pensais que
c'était...
Voilà. Ah, super. Alors.
C'est que je voulais m'assurer que le morceau ne faisait pas 9 minutes.
Il est un peu long, je crois.
Il est un peu long,
oui, c'est pour alors, ça. C'est pour ça que moi, j'ai embrayé.
T'as embrayé. Donc, 7 minutes, le morceau musical. Donc, voilà, dites-nous, Huguette, ce dont vous allez nous parler
la semaine prochaine.
Alors, je vais vous parler des situations des personnes âgées en Afrique dans la mondialisation que subit tous les pays du monde.
Ouais, vous pensez qu'on peut vraiment faire un parallèle, il y a des similarités, peut-être pas sur tous les points, mais peut-être sur certains points, vous pourrez transposer ce que vous avez vécu ici.
Tout à fait. On peut transposer en sachant que la vie en Afrique, avec la mondialisation, est en train de se calquer à la vie européenne. La culture traditionnelle,
malheureusement,
est en train de se transformer pour les besoins économiques. C'est pour ça qu'on doit revenir à l'économie sociale et solidaire. Il faut qu'on prenne ça dès le départ.
Alors, ce sera notre premier mot de l'émission de la semaine prochaine. Merci Huguette Ayengon Abesolo, coordinatrice de parcours de vie de personnes en situation de fragilité, mais aussi chef de projet en économie sociale et solidaire. La suite au prochain numéro.
Et merci à William.
Merci
Guylaine pour ce beau voyage.
William, il n'a pas fait grand-chose. Il a mis ses potards
Et puis on peut rappeler aussi qu'on peut nous réécouter sur le podcast.
Mais on n'y pense pas, c'est vrai, merci.
Voilà.
Podcast, Radio FM.
Et même d'Afrique, on peut nous écouter, c'est bien. Hein.
On était écoutés en direct là, de Libreville.
Ciao, ciao, Libreville.
Ciao. Alors, à bientôt. We'll be right back.
Ama, ama, ama.
Guadalupe, Guadalupe.